Et le moment de la prédication. Et pour ce matin, je veux reprendre le passage qui a été lu dans la liturgie du baptême, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Alors non, il n'y a pas de moment pour les enfants, mais ça va être court. Si, si, c'est promis. Alors dans cette lettre aux Éphésiens, on a lu ce passage que je vais vous relire. Donc Paul est en train de s'adresser à des chrétiens, oui, mais en fait, avant d'être chrétiens, ils étaient romains, grecs, ils adoraient Zeus, Apollon, ou des dieux phéniciens, je ne sais pas. En tout cas, ils n'adoraient pas Yahweh, le dieu juif. Et voilà ce que dit Paul. Oui. Vous prenez les enfants? Ok. Sauf si tu veux rester. Ça marche. Eh bien, il y a Babette et Simone qui acceptent d'aller à la garderie. Merci. Il n'y a pas d'enseignement, non. Merci beaucoup et belle application de l'Alliance. Rappelez-vous donc, alors pardon, c'est Éphésiens 2, verset 11, ceux qui veulent suivre. Rappelez-vous donc que vous étiez autrefois. Vous n'étiez pas juifs de naissance. Les Juifs vous traitaient d'incirconcis, alors qu'eux-mêmes s'appelaient circoncis, en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Eh bien, vous étiez en ce moment-là sans Christ. Vous étiez étrangers, vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu, vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Je m'arrête là pour l'instant. Alors, Dieu a toujours voulu un monde rempli de personnes qui le représentent, qui agissent en son nom et qui bénissent la terre en son nom. Il avait créé Adam et Ève dans le jardin. Il leur a dit, voilà, il faut remplir ce jardin, il faut le cultiver, il faut régner dans ce jardin. Alors, régner, pour nous, ça veut dire faire le tyran. Pour Dieu, ça ne veut pas du tout dire ça. On l'a chanté, hein. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, ça n'existe pas. Et oui, on n'est pas habitué à ça. Tous nos gouvernements respectifs, aucun d'entre eux là-dessus n'en rattrape un autre. On n'est pas habitué à avoir des ministres qui sont réellement des ministres. Ça veut dire quoi, ministre? Ça vient du latin. Ça veut dire serviteur. Et oui. Les ministres sont vos serviteurs, d'ailleurs, ils vivent avec vos impôts. Donc, et pourtant, ils ne sont pas trop à votre service. Et on a cette idée-là que effectivement, celui qui règne, il se fait servir. Mais quand Dieu crée l'homme et qu'il lui dit qu'il faut régner sur la terre, il est en train de lui dire qu'il faut servir la terre. Et tout le potentiel de fécondité, d'abondance que la terre contient, tu dois le faire épanouir et le partager. Bon, vous connaissez l'histoire. Les hommes ne sont pas allés dans cette direction. Tous images de Dieu. Vous êtes tous des images de Dieu. N'est-ce pas? Tous créés à l'image de Dieu. Et pourtant, le Dieu qu'on cherche à voir, on ne le voit pas dans ce reflet. Alors, que va faire Dieu? Ben, il va prendre Abraham et il va lui dire, écoute, on va marcher ensemble. Et je vais vraiment t'apprendre, toi, à me ressembler. Comme ça, on va créer un peuple sur terre qui va être un peuple témoin. Et quand on les verra, on dira, ah, mais il y a un Dieu là-haut. Et donc, il passe ce deal avec Abraham. Mais quelle marque va les distinguer? Parce que image de Dieu, tout le monde l'est maintenant, donc on n'arrive pas identifiable. Il donne la circoncision comme signe à ce peuple. Tous les mâles devront avoir le prépuce, le bout de la peau du pénis qui va être coupé pour consacrer cet organe. Et que toute la descendance qui naît de ce peuple, elle est consacrée à Dieu. Voilà. Et ce peuple devait grandir et devenir la nation témoin. On sait qu'il y a des promoteurs immobiliers, des fois, il y a des maisons témoins. Voilà, l'architecte qui fait une maison témoin. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux vous faire un truc comme ça. Et Israël devait être le peuple témoin. Mais si on lit ce que dit Paul, là, vous n'êtes pas juif de naissance. Et les Juifs vous traitent d'incirconcis alors qu'eux, ils s'appellent circoncis en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Est-ce que les Juifs étaient devenus vraiment une nation témoin qui voulait refléter de qu'est-ce que c'est qu'avoir une vraie relation avec Dieu dans le monde? Non. Malheureusement, ils étaient devenus orgueilleux. Ils étaient devenus un but d'eux-mêmes. Nous sommes la nation élue. Nous avons une relation avec Dieu et pas vous. Et plutôt que d'encourager à rencontrer le Dieu d'Israël, d'encourager à rencontrer le Dieu vivant, ils gardaient plutôt les gens à distance. Pourtant, ce royaume de Dieu était sur terre. Ils avaient une capitale, ils avaient un temple, et la présence de Dieu au milieu du temple et tout n'était qu'une première étape vers un royaume de Dieu qui englobe toute la terre. Parce que ça a toujours été ça le projet de Dieu, souvenez-vous, que toute la terre soit remplie de la présence d'images de Dieu. Alors non seulement cette nation témoin ne marchait pas, puis en plus, ils avaient fermé les portes, ils ne voulaient pas trop que les gens rentrent rencontrer Dieu vraiment. Et Christ est venu en personne, Dieu lui-même, l'image parfaite de Dieu, pour qu'on ait à nouveau accès à ce Dieu-là. Et ce mur de séparation que la loi juive était devenue, il l'a fait tomber. Pour être juif, il fallait deux choses, recevoir la circoncision, donc être né dans la bonne famille, et puis pratiquer la loi dans le pays. Ça, c'était le mode d'accès et de vie à ce premier royaume terrestre. Mais le deuxième royaume qui vient en Christ, le vrai, n'est plus la circoncision qui nous fait rentrer dedans, c'est le baptême. Et ce n'est plus une obéissance servile à la loi qui nous fait vivre dedans, mais c'est l'Esprit qui grave cette loi dans mon cœur. On l'a lu dans Ézéchiel, « Je changerai, j'ôterai de votre corps ce cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous de sorte que vous suivez et pratiquez mes ordonnances. » Et oui, alors on se dit parfois, ah oui, donc je vais être lobotomisé par Dieu et je ne pourrai plus penser par moi-même et je vais être obligé d'obéir à Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tous les chrétiens qui ont reçu l'Esprit Saint vous diront que ce n'est pas trop sa manière d'agir. Mais oui, clairement, il nous oriente, il nous pousse, il nous murmure, il nous façonne de sorte que nous obéissions à son grand commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alors là, la première chose que je voulais vous marquer, c'est que Christ a rendu possible une rencontre avec Dieu qui était devenue impossible. Et forcément, cette rencontre, elle a été possible parce que lui, il a accompli sur la croix une œuvre incroyable par son sang versé. Et du coup, la nouvelle alliance ne peut pas continuer à faire couler du sang, à sacrifier des agneaux, comme les Juifs le pratiquaient autrefois, à circoncire. Là aussi, c'est un signe sanglant. Dorénavant, les signes seront non sanglants. Le baptême et la Sainte Cène que nous allons prendre tout à l'heure. La deuxième chose que je voulais vous dire, je sais que dans l'Église chrétienne, tout le monde ne pratique pas le baptême des enfants. Et que beaucoup considèrent que c'est à l'adulte de choisir de s'engager. Ce n'est pas qu'on ne considère pas que l'adulte ne doit pas s'engager. Bien sûr, mes fils, Manoah, Elliot, Lily, Maël, Raphaël, un jour, professeront leur foi, eux-mêmes. Comme déjà, dans cette église, certains jeunes, eux, l'ont fait en se faisant baptisant, mais d'autres, comme Paul, par exemple, un jour est venu devant son assemblée et a dit, voilà, la foi que mes parents m'ont donnée, ben j'en suis reconnaissant et aujourd'hui, je la garderai. Ils sont nés dans l'arche de Noé et un jour, on leur a demandé s'ils voulaient sortir. Ils ont dit, non, moi, je reste. Bien sûr qu'il y a un engagement. Mais que dit l'histoire biblique ? Est-ce qu'on a un Dieu qui a ce cadeau à nous faire et qui dit « Si seulement tu faisais un pas vers moi, moi je pourrais te donner ce cadeau. » Non. Dieu crée le monde entier, un monde parfait, magnifique, beau. Il crée le jardin, il sème des plantes, il pose l'homme et la femme dedans et dit « Voilà, je vous fais ce cadeau en réponse, vous vivez cette relation d'amour avec moi. » Dieu va choper Abraham et lui dit, voilà, je t'emmène, je passe une alliance avec toi, je m'engage à être ton Dieu et le Dieu de tes enfants avec toi. En échange, accorde-moi ta confiance et suis-moi dans ce projet fou qu'on va bâtir ensemble. Israël était le peuple juif, le descendant d'Abraham, était esclave dans ce pays d'Égypte et Dieu vient, il les sauve, il sort ses muscles, il fait les 10 plaies d'Égypte, il ouvre la mer en deux, il se bat contre l'armée du Pharaon, il les emmène en... Et là, il leur apparaît au mont Sinaï, il dit, voilà, je t'ai délivré. Maintenant, s'il te plaît, passe ce pacte avec moi. Et l'ultime exemple, c'est Christ qui vient, qui offre sa vie pour des milliards qui croiront en lui plus tard, qui ne l'ont pas connu, qui ne sont même pas nés. Alors, est-ce que l'histoire biblique nous enseigne que Dieu attend de notre part un engagement avant de nous faire un cadeau ? Si tu t'approches de moi, alors je te bénirai. Ou est-ce que l'histoire biblique nous enseigne que Dieu commence par s'engager envers nous et que c'est dans cet engagement envers nous qu'il appelle, qu'il suscite, qu'il espère, qu'il supplie que nous répondions favorablement envers lui. Nous autres, réformés de l'Alliance, nous avons cette conviction que Dieu fait toujours, toujours le premier pas. Et si l'enfant, le jeune, l'adulte, doit toujours vivre cette réponse, doit toujours, à un moment donné, saisir cette promesse. Ah bon ? Le Saint-Esprit m'a été promis, mais oui. Mais comment je fais pour l'avoir ? Mais tu le demandes. Cependant, il ne grandira pas dans un Dieu qui a un pas de recul par rapport à lui. Il grandira en présence d'un Dieu qui déjà s'est engagé et te dit, mais moi, mon gars, je suis ton Dieu. Est-ce que toi, tu veux être mon enfant ? Mais moi, je me pense comme ton Dieu, parce que je suis le Dieu de tes parents et le Dieu de tes grands-parents avant toi. Oui, nous baptisons les enfants, parce qu'il est important pour nous que, dès les premiers instants de leur vie, ils grandissent fondés sur, alors nous, les évangéliques, on aime bien dire la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Et nous ne disons pas à nos enfants, si tu crois, Dieu te promet que. Nous disons à nos enfants, Dieu t'a déjà promis. Et qu'il plaise à Dieu, susciter cette foi en eux, fondée sur ses promesses. Amen. Nous allons continuer à vivre cette alliance avec Dieu. Nous avons vécu le premier sacrement.